la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle André Minzetanou. Je vais vous parler de mon travail sur la lecture et de la littérature sous forme de phrases. J'ai travaillé sur ce sujet pendant 7 ans dans le cadre d'une thèse et d'un postdoctorat en tant que pensionnaire de la Fondation Thiers. Je suis en effet pensionnaire de la Fondation Thiers, placé sous le haut patronage de l'Institut de France, qui a pour objet de soutenir des jeunes chercheurs pendant 3 ans. Je vais essayer de vous présenter les grandes lignes de mon travail de recherche, mais avant de le faire, je tiens à remercier vivement le Canal Académie de me donner l'occasion de revenir, et j'espère pouvoir éviter les pièges d'une présentation sans contradiction, les déformations de tout retour rétrospectif et introspectif sur la naissance des idées et sur l'objectivation d'une trajectoire intellectuelle. Je suis donc reconnaissant pour cette occasion qui m'est offerte de revenir sur mes recherches. Mon domaine de recherche est la théorie et l'histoire de la lecture en Europe au XXe siècle. D'une manière générale, j'essaye de comprendre les discours que portent sur la lecture certains écrivains de langue romane, roumains, français et espagnols principalement, mais aussi et surtout leur conduite de lecture. Cela veut dire plus concrètement que je me pose des questions du type « qu'est-ce qu'une lecture professionnelle ?»« Comment lisent les lettrés ? Comment lisent les écrivains ? Y a-t-il une différence essentielle entre la lecture professionnelle et la lecture journalistique et la lecture dite ordinaire ? Comment réagissent les lecteurs devant un texte qui les bouleverse, qui les intéresse d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'ils prélèvent une phrase qu'ils aiment singulièrement ? Est-ce qu'ils se contentent de la souligner, de faire juste un signe dans les marges du texte ? Comment expliquer cette pulsion de la notation ? Comment expliquer le discernement qui permet une hiérarchisation du texte, une distinction entre l'essentiel et l'accessoire ? Vous l'aurez compris, mon travail comprend une dimension descriptive. Je m'emploie donc à décrire le plus précisément possible le comportement lecteur de certains lettrés. Et j'ai beaucoup travaillé sur le Cassuran. J'essaye donc de comprendre ce qui l'intéresse, comment il découpe les textes, ce qu'il fait de ses notes de lecture, comment la production de ses livres est influencée par ses lectures. Mon travail comprend également une dimension explicative. À partir du postulat général qui pose que l'inconscient c'est l'histoire, j'essaie d'expliquer le comportement de certains écrivains modernes en le situant dans une généalogie culturelle et spirituelle de la lecture. J'essaie aussi de comprendre le conditionnement scolaire de ces pratiques ou la manière dont l'institution scolaire perpétue et encourage certaines manières de lire, la manière dont les écrivains parviennent à se construire une bibliothèque intérieure à partir d'un corpus scolaire. Pour arriver à expliquer ces choses-là, j'utilise des notions clés dans les sciences humaines et sociales d'aujourd'hui, la notion d'habitus, de représentation, d'éthos ou de posture. Et j'essaie de réfléchir bien sûr à la concurrence de ces notions et à une possible harmonisation interdisciplinaire. Et enfin, je dirais que mon travail comprend une dimension normative. Cela veut dire que je m'intéresse aux conséquences éthiques et existentielles des lectures, à la manière dont certaines lectures modifient en profondeur certaines trajectoires intellectuelles et le champ littéraire lui-même. Vous avez là les questions les plus générales de mon travail, mais je vais essayer de préciser un peu les choses. Je vais procéder en 2 temps. D'abord, j'aimerais expliquer, dans la mesure du possible, comment je suis arrivé à ces questions. Comment des questions existentielles sont devenues au fil du temps des questions de recherche. J'aime penser, et certains livres de Judith Schlanger ou ceux de Ivan Jablonka l'ont bien montré, qu'à une nécessité existentielle peut répondre plus tard et autrement, dans un autre pan de la vie, une question de recherche, sans que cela implique une perte d'objectivité, un désir moindre de savoir et de vérité. Cette première partie correspond en somme à ce que l'on pourrait appeler l'autobiographie d'une idée de recherche. Ensuite, je souhaiterais détailler davantage certains aspects plus concrets concernant mon travail sur la lecture. Je résumerai ces 2 aspects à travers 2 formules, la lecture comme événement et la lecture comme enfermement. Pour commencer, je souhaiterais revenir à cette conviction subjective, partagée par beaucoup de lecteurs, qu'une des unités essentielles de la lecture, contrairement à ce que l'on pense souvent, n'est ni le livre, ni le chapitre, ni les œuvres complètes, mais la phrase. J'ai toujours été sensible aux bouleversements affectifs et cognitifs que provoquaient en moi certaines phrases, à leur résonance durable et à la manière dont elles perturbaient nos vies. Il y a une phrase en particulier qui a beaucoup compté pour moi, alors que j'étais encore en formation à l'université de Bucarest, une phrase que j'ai découverte par hasard dans un entretien que Suran a donné à la fin de sa vie, au début des années 90. En parlant du rôle joué par l'écriture dans sa vie, il dit ceci. « Tout ce qui est formulé devient tolérable. » Tout ce qui est formulé devient tolérable. J'ai été émerveillé par cette rencontre heureuse entre une belle formule et une idée juste. Il y a eu d'emblée un phénomène de reconnaissance, d'identification, une direction qui m'a semblé extraordinaire. Tout bien pesé, cette phrase ne fait que rappeler le postulat essentiel de la psychanalyse et l'importance que celle-ci accorde à l'expression. Et pourtant, je trouve que sa concision rajoute une intensité singulière à cette évidence maintes fois rappelée par la psychanalyse et par la littérature elle-même. Après avoir travaillé sur le genre de l'autobiographie et sur le journal intime, j'ai un peu retrouvé ce type de phrase-événement chez d'autres lecteurs au moment où j'ai rédigé un mémoire à l'école de hautes études en sciences sociales consacré au rôle de la citation dans les carnets d'écrivains. Ce mémoire m'a conduit à la rédaction d'une thèse en littérature comparée à l'Université Paris-Nanterre sous la direction de William Marx, que je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement. Pendant un bon moment, j'ai conçu cette phrase-événement que je retrouvais souvent dans la plupart des carnets de lecture des écrivains que je fréquentais à travers la notion de citation et surtout à travers ces théorisations littéraires et linguistiques, celles proposées par Yulia Kristeva et Antoine Compagnon notamment. Je me sentais pourtant prisonnier de ces théories qui n'arrivaient pas à expliquer, à mon avis, d'une manière satisfaisante, la situation de lecture qui m'occupait moi, à savoir la situation où le lecteur tombe pendant sa lecture sur une phrase qui l'intéresse d'une manière ou d'une autre et qu'il prélève dans un carnet spécialement conçu à cet effet. J'en suis sorti le jour où j'ai compris que je ne travaillais pas sur les formes classiques de la citation, envisagée donc essentiellement comme une réénonciation égarée dans un texte de fiction, mais sur ce que j'ai appelé la note citation, c'est-à-dire la citation prélevée sur le vif au cours d'une lecture, au sein d'une communication de soi à soi, avant que la réénonciation proprement dite n'intervienne. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était la rencontre entre la lecture et l'écriture, mais plus précisément entre la lecture et la prise de notes. Je disposais donc dans cette thèse de deux notions, celle de note citation d'une part, que je viens d'expliquer, et celle de carnet que je concevais comme un support de la lecture, mais aussi comme un objet mental, comme une représentation et comme un objet épistémologique. Je disposais également d'un corpus de carnets de lecture ou des fiches de lecture des 7 écrivains européens, Paul Valéry, José Ortega y Gasset, Constantin Noica, Émile Suran, Mikhail Sebastian, Cesare Pavese et Enrique Villamatas. Pour faire vite, je dirais que les conclusions essentielles de ce travail de thèse se résume pour moi à 3 points. Le premier point, je dirais qu'à partir de leur manière de prendre des notes pendant la lecture, j'ai conclu qu'on pouvait établir une sorte de typologie de lecteur. Au sein de ces typologies, il existe 4 figures de lecteur. L'excerpteur d'abord, ou l'extracteur de citation, ça veut dire le lecteur qui prélève systématiquement des notes citation, ça veut dire des phrases sans aucune forme de commentaire la plupart du temps, pendant sa lecture, pendant qu'il lit, et Suran en est un exemple. Le marginaliste ensuite, le lecteur, ça veut dire le lecteur qui préfère faire des signes ou des commentaires dans les marges des textes. Le paraphraseur, ça veut dire le lecteur qui assimile ses lectures par le biais du jugement de la paraphrase. Et enfin, l'anti-excerpteur, et Valéry est le plus grand représentant de cette catégorie. Un lecteur qui refuse toute forme de citation parce qu'il y voit une soumission inacceptable devant la subjugation rhétorique ou devant l'autorité du texte lu. À partir d'un postulat venu du structuralisme, je pense que pour comprendre une conduite de lecture en particulier, il faut la situer dans un espace de différence et au sein d'un champ de conduite qui se construisent parfois les unes contre les autres. Le deuxième point de conclusion finalement de ce travail de thèse, J'ai travaillé non seulement sur un profil de lecteur, mais aussi sur un régime de lecture, sur un paradigme de lecture, si l'on veut, un paradigme que j'ai appelé la lecture citationnelle. Et un article paru dans la revue Littérature a essayé d'expliquer ce que j'entends par là. J'ai essayé d'inclure le geste de l'extrait au sein de plusieurs cultures de la note, au sein d'une très longue histoire culturelle de l'art de l'extrait. Cette histoire fascinante comprend une analyse des méthodes de travail de Pline l'Ancien, d'Olugel, de Marc Aurèle, mais aussi une évocation de la tradition patristique, de la scolastique et de la lecture monastique. Elle comprend également une analyse détaillée de plusieurs traités de quelques illustres pédagogues humanistes qui ont contribué à l'institutionnalisation de l'art de l'extrait et quelques précisions concernant la méthode de lecture et d'écriture d'un lettré qui occupe une place centrale dans la mythologie littéraire de l'extrait. Et je pense bien sûr à Montaigne. L'histoire de l'extrait esquissée dans ma thèse se poursuit avec l'analyse des règles fondamentales qui ont guidé pendant très longtemps la fondation et le fonctionnement de l'école jésuite, et avec les premiers textes qui commencent à mettre fortement en question l'intérêt et le profit de cette méthode de lecture, et Descartes occupe ici une place très significative. La fin de cette histoire est consacrée au destin de l'art de l'extrait, de la fin du XVIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, dans le contexte plus général de la contestation de plus en plus forte du rôle que joue la rhétorique dans les systèmes d'enseignement. Et enfin, le troisième point de conclusion pour ce travail de thèse, c'est précisément cette notion que j'évoquais à l'instant, la notion de note citation, donc qui se trouve au cœur de mon travail et qui s'insère dans une longue tradition comprenant des termes aussi différents que le moment de vérité de Barthes, l'instant prégnant de Diderot, l'instant fécond de Lessing, l'instant décisif d'Henri Cartier-Bresson, l'instant habité de Georges Banu ou la minute heureuse de Baudelaire. Mais aussi, et c'est un point central de ma recherche, dans la tradition des lieux communs et dans la tradition des pratiques compilatoires. Cette notion de note citation, ainsi comprise, m'a permis de mettre en évidence une économie de la lecture qui veut comprendre en fonction de quelques paramètres comme le plaisir ou le déplaisir, l'intérêt ou le désintérêt que le lettré accorde à certaines parties d'un texte, ce que l'on pourrait appeler, avec un terme emprunté à Judith Schlanger, le fonctionnement de l'aimantation des phrases, ou le plaisir culturel de la phrase. Contrairement à ce qu'un certain nombre de recherches consacrées au recueil de lieux communs, ou aux annas au XVIIe siècle ont soutenu, concernant la fin de l'art de l'extrait à la fin du XVIIIe, j'ai voulu montrer que cet art de l'extrait, cet art de la lecture, ce régime de lecture, survit sous des formes très diverses jusqu'au XXe siècle. Et les actuels dictionnaires de citation sont là pour en témoigner. Et même au-delà, comme le montre sa réhabilitation contemporaine par des lettrés comme Enrique Villamatas. Voilà donc pour cette thèse. Elle a été publiée sous une forme remaniée en 2016, aux presses universitaires de Vincennes, dans la collection Manuscrits modernes. Elle a également donné lieu à plusieurs articles publiés dans les revues critiques ou littérature. J'ai donc esquissé, et je passerai donc à cette deuxième partie de cet exposé promis, j'ai esquissé jusqu'ici les enjeux et les questions de mon domaine de recherche, et la manière dont un rapport singulier au texte littéraire, le mien, est devenu peu à peu une question de recherche, qui m'a permis de rejoindre un domaine où l'on publie régulièrement, depuis plusieurs décennies déjà, des choses vraiment passionnantes. Je songe par exemple aux travaux de Michel Charles, mais aussi à ceux de Roger Chartier, de Marielle Massé et de Pierre Bayard. Je terminerai donc en évoquant brièvement le second point de mon exposé, la suite que j'ai pu donner grâce à la Fondation Thiers et à mon insertion dans un laboratoire du CNRS, à mes recherches sur les pratiques modernes de lecture. J'ai annoncé ce point dès le début, en le nommant « la lecture comme événement ». Effectivement, c'est cette notion d'événement qui m'a permis de donner une suite à mon travail, parce que ça m'a permis de mieux formaliser une bonne partie de mon travail. La notion d'événement occupe, on le sait, dans les sciences humaines d'aujourd'hui, et ce depuis plusieurs décennies, une place considérable. En philosophie, Ricoeur a insisté par exemple sur la manière dont l'événement déchire l'ordre établi. Je le cite, « l'événement, c'est le nouveau par rapport à l'ordre déjà institué, en provoquant en même temps une ingénieuse demande de sens, dit-il, une exigence de mise en ordre, et en s'insérant finalement dans une intelligence narrative. » En histoire, François Dos, par exemple, a insisté sur un changement plus global de paradigme aujourd'hui, qui préfère aux notions de structure, d'invariant, de longue durée, les notions précisément d'événements, de fractales, d'émergence, de mutation ou de rupture. Et enfin, toujours en histoire, Christophe Granger a rappelé que l'événement est une notion mobilisée par la raison médiatique pour expliquer les changements sociaux et politiques, et ainsi sur sa capacité à fonctionner comme une sorte de diapason social. L'événement, je le cite, « organise un horizon commun où se coordonnent les attentes et les expériences singulières et où peut se réaliser le miracle social des fraternisations contre nature ». Je cite donc ces travaux sur l'événement parce que je crois qu'il nous permet de construire une distinction qui me tient à cœur entre l'événement de lecture et la lecture comme événement. Dans mon livre, j'ai travaillé, donc dans cette thèse qui est devenue ensuite un livre, j'ai travaillé sur cette note citation qui est finalement, qui correspond en quelque sorte à ce que Laurent Génie a appelé un événement figural. Et je le cite, « c'est une sortie périlleuse de la langue, un accès tensionnel à l'intelligible, une relance du mouvement qui porte au dire, et dans une recomposition de forme, une ouverture qui nous expose à un sens, à un destin. » Fin de citation. Donc depuis 3 ans, j'ai en quelque sorte abandonné cet aspect de l'événement figural, cette note citation, ce petit événement mental qui fait tilt, comme disait Barthes, et je travaille davantage sur un aspect plus collectif et transindividuel de la lecture, sur la lecture comme révolution symbolique, si l'on veut. Je me suis intéressé, et les résultats de cette enquête ont paru récemment dans la revue Littérature, à la fidélité que certains lecteurs vouent au pouvoir événementiel de certains textes, à la conversion subjective qu'impliquent certaines lectures, et que Tristan Garcia décrit ainsi. Je le cite, « de temps en temps, à certains instants importants de la vie, notre ordre des « nous », parce que son livre porte sur « nous », change soudainement et la forme même de « nous » se transforme. Nous nous sentons bouleversés et convertis ou bien défroqués de nos anciennes convictions. Chacun a fait l'expérience de changer en soi la priorité de ses appartenances et de voir alors se transformer sous ses yeux le découpage de tout ce qu'il perçoit parce qu'il contemple désormais tout à travers la transparence des classes sociales ou des communautés religieuses ou des générations ou des espèces animales. » Fin de citation. Donc, c'était une première suite que j'entendais donner à mon travail sur la lecture, cette idée de la lecture comme événement et à cette idée d'une conversion subjective entraînée par la lecture. Mais je me suis rendu compte assez vite, après avoir terminé cette enquête que je viens de citer, que cette conversion subjective, incluse dans certaines lectures, dans cette vision de la lecture comme révolution symbolique, que cette vision de la lecture, que cette vision, en quelque sorte, de la lecture, ou que ce type de lecture plus précisément, comprenait aussi des risques. Des risques sur la vie affective et cognitive des lecteurs. Et c'est pour cela que j'ai voulu poursuivre cette enquête sur les conséquences épistémiques des lectures, en m'intéressant à une certaine forme d'enfermement, à une certaine forme de dogmatisme. Et c'est pour ça le deuxième point de cette partie s'appelle la lecture comme enfermement. J'ai voulu donc étudier une dimension plus sombre de l'art de l'extrait, de ce type de lecture qui m'intéresse, après avoir fait l'éloge de ses points positifs, de sa créativité, de ses conséquences émancipatrices. Donc j'ai voulu m'intéresser à une forme de rigidité mentale, à une forme de dogmatisme, une forme d'enfermement subjectif périlleux. Je ne reviendrai pas ici sur les aspects plus techniques de l'enquête, lesquels renvoient à des éléments que certains théoriciens ont pu nommer les énoncés surestimés ou le paradigme intérieur, et je pense à Pierre Bayard, des éléments qui sont responsables d'un dialogue de sourds entre les lecteurs ou des communautés de lecteurs. Plus concrètement, j'ai essayé de rapatrier ce que la psychologie sociale nomme le biais de confirmation, au sein des théories de la lecture. comme on le sait, le biais de complaisance, le biais de confirmation ou le biais de confirmation d'hypothèse correspond à une attention plus restrictive, à un traitement particulier de l'information, dans la mesure où le sujet privilégie, le sujet lecteur en l'occurrence, privilégie les informations qui confirment ses croyances au détriment des éléments qui le forceraient à les réviser. Il s'agit généralement d'un élément qui pousse le sujet à surestimer l'importance des instances qui confirment ses croyances. Dans des termes logiques, le biais de confirmation renvoie à la tendance à traiter une relation d'implication comme une relation d'équivalence. Donc d'une manière très générale, cela veut dire que si l'on a besoin de confirmer une hypothèse, nous aurons plus facilement recours aux stratégies de confirmation qu'aux stratégies d'affirmation dont nous disposons, parce que celles-ci demandent des réflexions et des analyses plus laborieuses. Nous pouvons également voir le biais de confirmation comme une réaction du sujet à une incertitude, comme la réaction du sujet devant une offre d'idées trop abondante du marché cognitif dans lequel il vit, et enfin comme une tentative d'auto-justification du sujet lecteur qui veut à tout prix réduire sa dissonance cognitive. Autrement dit, j'essaie de montrer que la lecture citationnelle, celle qui a fait l'objet de ma thèse, peut favoriser considérablement, à travers le biais de confirmation, la pérennisation de certaines croyances que la recherche devrait précisément mettre en question. Ou encore, ce qui motive la surestimation de certains énoncés dans un texte, au sein du travail de sélection ou de la lecture citationnelle dans son ensemble, est un désir de confirmation des croyances du sujet. Pour conclure, après avoir mentionné ces deux enquêtes plus récentes, je dirais que les théories de la lecture devraient prêter attention à ces filtres et à ces biais cognitifs dans la mesure où ils sont souvent la source d'un certain nombre de malentendus et d'un dialogue où les critiques, qu'ils soient amateurs ou professionnels, tout en discutant des textes littéraires, ne font qu'évoquer leurs propres convictions. Et Judith Schlanger a raison de noter dans ce sens qu'il existe une pathologie de l'influence tout à fait redoutable, un piège subtil, la persuasion la plus insidieuse et une menace de sclérose. Je la cite, « Il s'agit de l'auto-influence, celle qu'on risque d'exercer sur soi-même, à force de vivre avec soi-même, à partir de ce qu'on a déjà pensé, écrit ou peint. Sans qu'on en ait précisément conscience, la longue fréquentation de soi, la durable familiarité à soi-même, les habitudes qui naissent du souvenir des solutions colorent en nous la perception actuelle et risquent d'émousser l'instant présent. » Fin de citation. C'est grâce donc à cette trajectoire existentielle et au parcours de recherche que j'ai retracé ici que j'ai pu échapper en quelque sorte à l'emprise intellectuelle de Sioran. Aujourd'hui encore, je trouve cette phrase, sa phrase à lui, « Tout ce qui est formulé devient tolérable », toujours extraordinaire, mais j'ai compris malgré tout que soupirer n'est pas un projet intellectuel à long terme, qu'il existe en dehors du bonheur d'expression, la joie de comprendre le monde tel qu'il est et celle qui existe à imaginer des vies autres. Je vous remercie de votre attention.